Donc je suis en direct avec Bruno en studio pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors on va parler, on va avoir un entretien tout à l'heure avec Anne Gorouben qui est l'auteur en 2011 de 100 boulevards du Montparnasse. L'artiste, la dessinatrice à ce moment-là, revient sur sa jeunesse passée dans le 15e arrondissement de Paris, marquée par les poids des silences d'une famille juive, notamment durant l'occupation. Par touche, dans l'épaisseur de ses dessins au crayon gris, Anne Gorouben livre les morceaux de sa mémoire. Nous sommes avec elle vers 14h15 pour qu'elle nous guide dans son écriture dessinée. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, petit souci technique, ça arrive. La musique a été choisie par l'autrice Anne Gorouben. On va écouter successivement La jeune fille et la mort de Franz Schubert, interprété par le Quatuor Hanson, Ricercar de Jean-Sébastien Bach et Anton Webern, et c'est dirigé par Antonello Manacorda, et on finira avec le Requiem de Forêt sous la direction d'Henri Chalet avec la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Je voudrais encadrer le livre d'Anne Gorouben, Une jeunesse au secret, par trois autres livres qui marquent des récits de vie, qu'ils soient en fiction ou autobiographiques. Commençons avec Capuche blanche, mis en image par Ta et scénarisé par Oscar Martin. Alors, ça paraît pas immédiatement évident, mais Capuche blanche est une variation sur le petit chaperon rouge. Et les 10 premières pages vont être très convaincantes, vont écrire la solitude d'une ado qui se retrouve seul après le départ de sa mère sans prévenir, et puis un père plutôt absent qui est vraiment dans ses propres préoccupations et qui la délaisse. Dans cette écriture, dans cette nouvelle version du Chaperon Rouge, il va y avoir un plaidoyer pour le loup avec un renouvellement de la relation entre le loup et le petit chaperon rouge, donc ici, avec Capuche blanche. Il y a la création d'une nouvelle dépendance entre la jeune fille et l'animal, qui va être marquée par la prédation des hommes, puisqu'il y a un moment, il va falloir nourrir l'animal qui meurt de faim, qu'elle a soigné, avec qui elle s'est attachée, et il va donc y avoir une mutation qui va s'opérer pour Capuche, qui souhaite nourrir l'animal, et elle va éliminer plutôt froidement, plutôt sans véritablement d'état d'âme, des prédateurs hommes qui sont pas très conciliants et qui lui veulent du mal, tout simplement. Alors ça peut rappeler la version originale. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans le scénario de Oscar Martin, c'est que il y a plusieurs moments où on va voir qu'il respecte l'histoire de départ avec cette version beaucoup plus contemporaine et avec cette métaphore de la violence du monde contemporain qui est incarnée à la fois par Capuche elle-même, mais par aussi d'autres personnes qu'elle élimine. À aucun moment, c'en est bien sûr une justification. Et puis, il y a le dessin de Ta. Alors Ta, c'est Auguste Tarrast, qui est un dessinateur catalan, mais qui a un trait d'une grande présence qui est composé de dessins, d'une ligne plutôt jetée, avec une maîtrise, et qui fait que on va avoir une tension dans le trait, parce que il évite les rondeurs, il va plutôt appuyer cette tension avec un dessin un peu plus anguleux, mais qui sait être parfaitement souple au moment de dessiner des visages. Mais par exemple, lorsqu'il dessinera les cheveux, il y aura de nouveau cette vitesse d'exécution qui va vraiment donner une présence particulière au dessin de tas. Alors, il va accompagner l'évolution de capuche, de capuche blanche, et montrer comment elle s'accommode, comment elle va trouver son chemin dans ce monde contemporain et dans cette relation avec le loup qui finalement semble être le seul animal ou la seule personne qui lui prouve de l'intérêt. Il y a un moment la mutation carrément de capuche blanche en chaperon rouge, et il y a donc cette intensité dramatique qui va advenir et être à son paroxysme sur la fin du livre, tout à fait comme dans la version originale. Alors, la version originale, il y a eu tellement de versions qu'on ne sait plus vraiment laquelle est l'originale. Mais il y avait toujours, en tout cas, une violence assez forte, assez puissante dans la fin du récit. Il y a dans la mise en scène de Ta une très grande fluidité, une très grande qualité de composition qui permet au lecteur de suivre le récit avec une grande facilité, une grande intensité, et il y a une place qui est laissée au texte qui fait que ça colle parfaitement avec cette ambiance issue de la fable, cette version contemporaine apportée par les variations d'Oscar Martin, et cette mise en couleur assez légère, un peu comme le trait de Martin, mais qui garde aussi cette tension qu'il y a tout au long du récit. Petit format roman qui peut facilement passer inaperçu dans les rayons d'une librairie, et ce serait dommage. Capuche blanche de Ta et Oscar Martin a été traduite par Missial Ographia. Le lettrage est de Laurence Gratteau et c'est publié par les éditions Delcourt. Et les 104 pages de ce récit sont au prix de 16 euros et le livre a été imprimé en Belgique. Poursuivons avec Impénétrable d'Alix Garin et tout de suite le récit. Impénétrable est un témoignage singulier par sa sincérité. Alix Garin raconte sans concession la reconquête de son corps et de son désir après avoir souffert de vaginisme pendant 2 ans, un trouble sexuel qui rend impossible la pénétration. Pour guérir, il va falloir affronter les injonctions, les normes, le passé, surmonter la culpabilité et la solitude qu'impose une société où ne pas faire l'amour est impensable et en parler impossible. Donc c'est un récit autobiographique porté par Alix Garin, qui est l'autrice d'un premier roman très remarqué, premier roman graphique, Ne m'oublie pas. Impénétrable suit un projet qui a été abandonné par l'autrice, qui faisait 300 pages, parce qu'elle ne le trouvait pas suffisamment pertinent. Donc on va avoir, pour ces 2 ans de vie que raconte Impénétrable, les mouvements de la confidence, le dévoilement progressif du problème que la société scelle sous le tabou. On n'entend pas parler du vaginisme. Donc il va y avoir une prise de conscience lente qui va être faite par l'autrice, et elle va écrire les réactions de l'entourage, celles de Luca, son compagnon bienveillant, et ça fait plaisir de voir ce portrait d'homme bienveillant. Et le récit est partagé en deux parties, se soigner et guérir. Donc dès qu'on commence le deuxième chapitre, on sait comment ça va finir. Mais tout le cheminement est essentiel à la lecture de ce récit et le lecteur se laisse vraiment porter par l'écriture d'Alice Garin. Alors qu'est-ce que peut apporter la bande dessinée à ce type de thématique ? Alors, j'ai à plusieurs reprises évoqué des romans graphiques, des récits de vie qui marquaient cette façon de s'approprier des questions intimes et de pouvoir les évoquer et utiliser le dessin pour ce qu'il va apporter de précision, de finesse, de subtilité, de symbole. Alors, dans le dessin d'Alice Garin, il y a un héritage d'une culture de la bande dessinée franco-belge. Alice Garin vit à Bruxelles, c'est une autrice belge, et il y a une façon d'utiliser un certain classicisme, une certaine façon de camper les personnages, les décors, avec une certaine simplicité, et il y a parfois un côté un peu déstabilisant où la caricature parfois de certains personnages, de certaines situations, de certaines expressions même de l'autrice qui se représente tout au long de ce livre. Et ce traitement peut surprendre. Mais en fait, il y a dans ce trait une ironie qui va parfaitement avec cette connaissance préalable que l'on a de la fin de l'histoire. Et on va d'autant plus la savourer au fur et à mesure que l'on va voir se déployer le récit. Et puis, il y a un point très fort que permet la bande dessinée, ce sont les images symboliques. Le désir est représenté par le feu, plus ou moins important, qui part du pubis de la femme. C'est une représentation qui est plutôt classique, mais Alice Garin va se l'approprier et va l'utiliser tout à fait avec justesse. La couleur rose va à plusieurs reprises souligner, appuyer ces moments de malaise. Et lorsqu'une femme est atteinte de vaginisme, c'est très important. Mais il y a un point très fort, ce sont les caresses douces de Luca, mais qui vont devenir oppressantes. Alice Garin, et on le voit dès la couverture, va représenter ses mains de façon un peu plus réaliste et elles vont être sur son visage, sur son corps et elles vont montrer l'insistance du désir du partenaire et cette impossibilité de l'accompagner, de permettre à son partenaire d'avoir ce plaisir et cette représentation des mains qui sont là sur le corps, mais vraiment comme des étrangères, à un moment où pour Alix, il n'est pas possible de les accueillir. Il y a un point très fort, c'est une écriture sur la façon dont la société dicte des conduites finalement aux femmes par la culture, par l'histoire de la relation, de l'amour. Et il y a une page, la 93, tout à fait représentative, je cite. « Tous ces sacrifices pour pouvoir être pénétré à nouveau, pour pouvoir assumer mon rôle de femme tel qu'il a été décrété, et parfois je m'en voulais de céder à cette injonction et de me donner tout ce mal pour quelque chose dont au final je n'avais pas absolument envie. Je ne pouvais pas me résoudre à renoncer et devoir encaisser de plein fouet les conséquences. » Alors je joue le jeu et je lutte contre mon corps. C'est un témoignage qui très vite devient essentiel parce que justement on ne parle pas du vaginisme et que le tabou y est très puissant à cet endroit. Et donc c'est une façon, grâce à cette écriture autobiographique, où dans sa représentation d'elle-même, Alice Garin sait garder la pudeur nécessaire pour qu'à aucun moment on soit voyeur de ce moment de la vie de l'autrice. Et c'est cette très grande qualité du récit d'avoir trouvé ce point de récit, ce point de vue, pour raconter ce qui, dans la vie d'Alice Garin, a été une période tout à fait déterminante et essentielle. Impénétrable d'Alice Garin est publié par les éditions du Lombard. C'est un récit d'ampleur, les 304 pages de ce roman graphique, de ce récit de vie, sont au prix de 30 €, et le livre a été imprimé en Belgique. Une jeunesse au secret d'Anne Goruben bat en brèche l'idée que l'ampleur du dessin viendrait de sa lisibilité, de la facilité à en saisir le sens. Avec des doubles pages composées à gauche d'un récit et à droite d'un dessin à la trace charbonneuse, Anne Goruben compose par touche ses jeunes années passées dans le 15e arrondissement de Paris, masquées par le poids des silences d'une famille juive durant l'occupation, mais pas que. Le dessin de l'artiste vibre avec le grain du papier. Son crayon reste léger pour créer des lumières, revient par passages successifs pour définir les corps, les espaces, les lieux, s'anime de ses nuances de gris. Le sombre indistinct s'impose avec ses gris intenses, proches du noir. Toujours marqué par cette matière du papier que le crayon n'arrive pas à saturer. Le dessin centre l'intensité des souvenirs, Ils échappent au principe des « Je me souviens » de Georges Perec et avant lui de Joe Brennard, où la gravité émerge de l'anodin, voire de l'anecdote. Chaque texte revient sur ces moments tout au long de l'enfance et de l'adolescence où la solitude griffe, où les jugements enferment, où les remarques cinglantes blessent. Avec une écriture sobre, sans lyrisme, Anne Gorouben trace cette enfance où on doit résister pour exister. Les dessins estompent les regards pour laisser toute la place à ceux de la dessinatrice. Une jeunesse au secret est riche des autres œuvres d'Anne Gorouben, constituée de séries. L'artiste s'attache avec le dessin, l'aquarelle, à exprimer une détresse profonde, celle par exemple de ceux qui n'ont pas les moyens de l'exprimer, les hommes qui dorment, ceux de la rue, qui échappent à nos regards et qui ont pourtant cette noblesse grâce à la lucidité sensible et discrète des dessins d'Anne Gorouben. Ces aquarelles de femmes de la série « Femmes, oubliées ou taisez-vous » rappellent la force de ces femmes abîmées et elles captent, l'autrice capte, leur dignité silencieuse. Si la peinture est aujourd'hui plutôt mise de côté, elle apparaît dans un texte de une jeunesse au secret qui évoque cet autoportrait que l'artiste va réaliser d'elle-même quand elle est enfant et elle va se placer devant une glace. Pour dessiner un autoportrait, j'ai pris mes pastels à l'huile et je me suis représenté en buste. Pour rendre la teinte de ma peau, j'ai choisi le bleu le plus intense de ma palette. Seul le bleu pouvait exprimer mon immense mélancolie. Avec ses dessins noirs et blancs, ce bleu, on en a toute l'intensité. Alors apparemment, on a un souci pour joindre Anne Gorouben, et c'est bien dommage, tout était pourtant bien calé. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail ce livre, donc qui est le deuxième récit autobiographique de Anne Gorouben. Le premier, qui était paru donc en 2011, sans boulevard du Montparnasse, évoquait déjà une première partie de ses mémoires d'Anne Gorouben. Et là, cette jeunesse, une jeunesse au secret, qui est un très beau titre, qui est parfaitement adapté et riche de cette simplicité d'écriture. Il y a une volonté manifeste de ne pas mettre de narration dans le dessin, mais la juxtaposition pour chaque double page avec ce texte à gauche et ce dessin à droite va fonctionner à merveille. On a vraiment une écriture par touche. Et c'est essentiel puisque on n'a pas la chronologie et son poids pour dire « bon ben voilà, il y a eu tel passage, tel épisode ». Non, là, à chaque fois, on a une personne de l'entourage ou des personnes de l'entourage de Anne Gorouben qui vont être présents pour un moment, un morceau de cette enfance. Et à chaque fois, il y a une touche qui va composer par juxtaposition une enfance qui est blessée, qui est douloureuse. Et c'est une très grande difficulté d'arriver à exprimer ce moment-là dans toutes ses nuances et ne pas la simplifier à grands traits. C'est la qualité du dessin d'Anne Gorouben qui est de travailler cette trace sur ce papier très granuleux où finalement chaque passage de crayon va toujours être accompagné d'une trace noire, mais aussi de la partie blanche des creux du papier qui ne vont pas être coloriés. Et c'est un dessin qui est extrêmement vivant, extrêmement intense, de par l'épaisseur de la représentation que constitue ce choix graphique. Alors voilà, nous avons trouvé Anne Gorouben, donc c'est parfait. Anne Gorouben, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors, j'ai fait la présentation déjà de votre livre et un peu de votre œuvre. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé de vous relancer dans cette écriture de votre jeunesse au secret, qui est un très beau titre?
Alors, ce titre, il a été immédiatement trouvé. En fait, je n'avais pas du tout idée que j'allais recommencer quelque chose autour de l'histoire familiale. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au musée d'art et d'histoire du judaïsme voir l'exposition d'un peintre que j'ai beaucoup aimé, admiré toujours, qui s'appelle Marian, qui est un juif d'Europe centrale, je pense de Pologne, qui a vécu évidemment l'enfance au Shtetl, le ghetto, et puis les camps, hein, Auschwitz, et puis qui est parti en Israël après la fin de la guerre, et puis qui est venu faire des études en France, des études au Beaux-Arts de Paris. Et cet homme travaillait la figuration en France au sortir de la guerre. À part Giacometti, il y avait peu de peintres qui pouvaient présenter de la figuration, ce qui s'est reproduit d'ailleurs à mon époque. Hein. Il y a eu aussi comme ça une très grande difficulté d'aborder la figure. Et donc finalement, dans les années 60, je crois, il est parti aux États-Unis, et où il a fait sa carrière tout en voyageant quand même, restant quand même un peu connu, en tout cas en France. Et au cours d'une grave dépression, son psychiatre, psychanalyste lui a dit, comme il n'arrivait pas du tout à parler en séance, ce que vous ne pouvez pas dire, dessinez-le. Et ça a été le début de 9 carnets complètement extraordinaires qui ont été montrés dans cette petite rétrospective, enfin petite, c'était une grande exposition. Mais à la fin, cette exposition se terminait par une présentation très très bien faite. On voyait vraiment les pages, tourner les pages des carnets. Et ces carnets sont prodigieux. Ils sont prodigieux parce qu'ils mêlent à la fois l'histoire de l'enfance, l'histoire de la violence de l'enfance et la violence de l'histoire. Tout ça donc dans un dessin qui est très expressionniste. Et quand je suis sortie de cette exposition, je suis rentrée à mon atelier, j'ai pris un carnet. Et je me suis dit, mais j'ai rien dit de mon enfance, j'ai rien dit. Et donc je me suis mise à dessiner, et c'est donc en 2013, décembre 2013, le premier dessin. Je ne sais pas par quel dessin, j'ai complètement oublié le premier dessin. Mais j'ai dû commencer par un des dessins, ou plusieurs en même temps, comme je fais souvent, enfin toujours même. Et donc, voilà, c'est un travail qui a duré en dessin 10, 11 ans. Et donc les images, en fait, quand les gens me disent souvent, mais moi j'ai tout oublié, comment tu peux te souvenir, en tout cas c'est ce que me disent certains membres de ma famille, mais comment tu peux te souvenir de ça? Mais en fait, c'est comme quand on écrit, quand on dessine, les images viennent, on va très profond. Alors, voilà, en fait, l'histoire. Évidemment, j'ai pas fait que ça. J'ai fait d'autres séries. Je suis allée ici ou là, mais toujours, il y avait cette série de dessins qui était à l'arrière-plan.
Comment le dessin et le texte se croisent et finalement s'associent. Comment avez-vous travaillé ? Est-ce qu'il y avait un moment qui revenait, un souvenir ? Est-ce qu'il y avait une envie de dessin par rapport peut-être aussi à un souvenir ? Comment procédez-vous, Anne Gorouben ?
Pour ce livre, en fait, j'ai d'abord dessiné. J'ai d'abord dessiné, passé de nombreuses années à avoir cette série de dessins que je laissais un peu assoupis, que je reprenais entre d'autres séries d'œuvres. Et je me suis mise à chaque fois, bien sûr, quand on dessine, on a des mots qui entourent chaque dessin. Moi, il y a toujours des mots. Pendant très longtemps, maintenant, bon, je fais des séries avec beaucoup de dessins. J'ai pas toujours des titres sur les dessins. Ils portent un nom générique, mais très longtemps, en fait, le sans titre, vous savez, le titre sans titre, ça a été pour moi une hérésie. J'ai toujours des mots à associer au dessin. Et donc, il y avait ça, de rêverie avec les mots qui accompagnent chaque dessin. Mais le texte, je ne l'ai abordé qu'en 2018, sérieusement. J'étais en résidence à la Villa Yourcenar et les dessins étaient suffisamment avancés pour que je me mette vraiment à l'écriture. Donc il y a eu énormément de versions six ans de travail, avec pareil des moments où je laissais tomber et ensuite je reprenais pour essayer de décanter en fait, d'essayer d'arriver un peu à l'os et de sabrer dans beaucoup trop de choses qui arrivent dans ces situations-là où on travaille sur une matière, sur un matériau qui est très à la fois profond, affectif, pas n'importe quel matériau.
Anne Gorouben, comment travaillez-vous le texte en étant dessinatrice? Qu'est-ce que vous renvoie le texte lui-même, ce qu'il évoque, qu'est-ce que vous allez supprimer, retravailler, réécrire? Comment ça se passe?
Il y a quelque chose qui est de ne pas évoquer une illustration, quoi. Le texte n'illustre pas le dessin n'illustre pas le texte. Parce qu'ils ont, en tout cas dans la façon dont je travaillais, une vie propre. Et même si souvent j'avais avec moi en regard le dessin, quand je travaillais le texte, j'essayais de faire revenir autre chose. La parole, des souvenirs, par exemple, il y a pas mal de phrases qui m'ont été dites, dont je me suis souvenue, dont je me souviens toujours, qui revenaient un peu comme des sortes de leitmotiv, des adresses que les parents avaient souvent, quoi, dans toute une enfance et parfois toute une vie, des choses qui reviennent souvent, donc qui revenaient forcément. Et puis il y avait l'évocation aussi entremêlée du passé que moi je n'ai pas connu. Et à la fois il y avait ce qui me revenait, c'était ma propre enfance, ma relation avec la famille, les gens qui m'entouraient, et puis aussi l'histoire familiale.
Il y a dans les dessins un point que je trouve assez frappant, mais qui est tout à fait dans l'esprit de vos choix graphiques et picturaux. C'est une façon d'estomper les regards. Les images sont un peu votre regard, votre point de vue, mais ceux des personnes présentes ont un regard qui est très estompé. Pourquoi ce choix ?
Qu'est-ce que vous... Écoutez, il est tout à fait inconscient. Il est tout à fait inconscient, mais c'est drôle parce que quand vous me parliez, quand vous avez... commence à parler du dessin, j'ai eu cette sensation physique, hein, j'ai fermé les yeux. Parce que je pense qu'il y a il y a quelque chose qui est dans mon dessin, ce type de dessin-là, c'est vraiment remémorer pour moi, c'est fermer les yeux. Comme par exemple, je ferme beaucoup les yeux quand j'écoute au téléphone, quand j'écoute quelque chose d'important, quand on me dit quelque chose d'important, j'ai souvent, je m'en rends compte après, je ferme les yeux pour qu'il n'y ait pas de distraction, que les autres sens soient un peu atténués, surtout que le regard soit atténué. Alors finalement, c'est le regard des autres qui est atténué dans mes dessins. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que ce n'est pas un choix.
C'est déjà une réponse.
Oui.
Alors, c'est... Il y a un point qui me paraît étonnant, c'est que vous portez donc l'écriture d'une jeunesse au secret pendant une dizaine d'années, avec donc un ensemble de corpus de dessins qui sont réalisés, l'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas une intensité qui a pu se désamorcer au fur et à mesure que vous avanciez dans l'évocation de votre jeunesse? Est-ce que vous avez, au contraire, une intensité qui reste puissante parce qu'il y a encore des blessures à exprimer, à mettre sur le papier?
Il y a quelque chose qui est stupéfiant pour moi. C'est que, et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en dessinant petit à petit, il y avait presque en mettant le... Plus j'accumulais de graphite sur le papier, plus le dessin se formait, plus finalement, je ne me souviens plus de mon souvenir. C'est quelque chose d'étrange qui a fait que la saturation du dessin et que ça montait comme ça en noir et blanc, en contraste, en lumière, équivalait à, non pas un oubli, mais quelque chose qui se désamorçait, quelque chose qui se déposait. Et parallèlement, en fait, quand j'ai commencé à écrire, là, ça a été très intense. D'une part, c'est un petit peu comme ce que je disais, je dis beaucoup ça, hein, y a un choix alors qui se fait pareillement, hein, de façon physique, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre, comme une sorte de choix éthique. Et là, la question dans l'écriture se posait de façon cruciale. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, et qu'est-ce que je pouvais révéler, jusqu'où je pouvais aller par rapport à ma famille, par rapport à une certaine à la justesse, quoi. Il fallait que pour moi ça sonne comme une vérité, que ça soit et c'est difficile, en fait, c'est très difficile de... Je pourrais dire que je suis passée par des moments épouvantables. Des mois, des semaines, des mois, justement à cause de l'écriture. Il y avait une intensité qui était autre. Autant je pouvais dessiner avec des problèmes qui sont concrets, une sorte de joie active du crayon, et de déposer comme ça ces images que j'avais en tête qui me revenaient au fur et à mesure. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Hein. On sait tous combien on a beaucoup d'images en soi de choses qu'on a vécues, même si c'était une période qui s'étage de l'âge de 7 ans à 22, 23 ans. En fait. Mais par contre, l'écriture, ça a été douloureux, difficile. Parce que non, on ne met pas... Voilà, il ne s'agissait pas que de moi.
Anne Goroubel, je vous propose une pause musicale. Donc, voilà, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade, nous sommes en direct dans l'émission Écriture dessinée et nous sommes avec Anne Gorouben à l'occasion de la parution de son livre Une jeunesse au secret. Anne Gorouben, j'aimerais revenir sur un point qui marque votre œuvre et les différentes séries que vous avez réalisées, c'est un rapport à la dignité très fort. Est-ce que dans la façon de mettre en image, dans ce travail de crayon, dans cette utilisation du grain du papier, est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de conserver une certaine dignité aux personnages qui sont présents dans votre jeunesse, une façon de garder et de montrer toute l'empathie que vous avez pour eux?
Oui, en fait, dès que j'ai pu dessiner, je me suis consacrée au portrait, en fait. Que ce soit des mes études, hein, quand j'ai fait mes études à l'école des arts décoratifs à Paris, et très très rapidement, j'avais aucun intérêt pour l'expression visuelle, publicitaire, illustrative, donc je suis allée moi en peinture et d'ailleurs j'avais un maître abstrait qui est Zhao Wuqi, que j'ai suivi pendant 4 ans aux arts déco. Et moi, je suis tout de suite allée vers la figure humaine. Il me semblait que, enfin, pour moi, c'était la chose urgente de me mettre face à l'autre, quoi, finalement. Ce qui me faisait tellement peur quand j'étais enfant et surtout adolescente. J'avais très, très peur des autres, très, très peur de croiser les regards. Enfin bon, je pense qu'on peut comprendre ça. Finalement, ça revient un petit peu à ce que vous dites sur l'effacement des regards, mais on peut comprendre ça dans le livre, en fait, comment ça arrive à l'adolescence. Quand j'ai eu un crayon, des fusains, je me suis attaquée à cette difficulté en me confrontant avec ce que j'appelle des armes, c'est-à-dire les crayons, les outils, le pinceau, tout ce que je pouvais faire pour faire visage, faire face à l'autre. Et je pense que c'est tout s'enracine un peu là dedans.
Il y a des séries, il y en a une qui est très belle, qui s'appelle Les hommes qui dorment. Donc ce sont ceux de la rue qu'on voit de moins en moins, comme si on ne voulait pas les mettre dans notre champ visuel alors qu'ils sont là. Il y a Femmes oubliées ou Taisez-vous. Et à chaque fois, il y a un attachement au sans-voix. Qu'est-ce que peut apporter le dessin dans ces situations? Et vos dessins?
En fait, c'est vrai qu'il y a une histoire par rapport à ça, une façon de... Oui, il faut restituer quelque chose de l'humain, du visage. Enfin, je suis allée aussi au foyer Emmaüs. Je travaillais à Sainte-Anne, je donnais des cours au personnel de Sainte-Anne. Et le foyer Emmaüs était dans le même endroit, le lieu où je donnais mes cours. Et il y a toujours une perte de visage, en fait. Quand on perd l'idée de son propre visage. Et c'est quelque chose qui m'est toujours apparu comme extrêmement rapide et extrêmement violent. Et en dessinant, en faisant des portraits comme ça de gens qui étaient dans l'errance, dans la pauvreté extrême, j'ai vraiment eu le sentiment de... d'une part que c'est un échange puissant et d'autre part de restituer du visage à des gens qui ne l'ont plus parce que dans les ronces on perd très très vite son propre visage. Et pour les hommes tombés, enfin les hommes qui dorment, c'est né vraiment d'une... Il y a un peintre que je j'ai toujours beaucoup admiré, qui m'a toujours passionné, c'est Jean Hélion. Et le peintre Jean Hélion est venu de l'abstraction à la figuration. Et juste, je crois que c'était en 1939, il a fait une première figure tombée. C'est plus de l'abstraction, ce sont des formes, mais on sent très bien que c'est un corps qui est à terre. Et quand j'étais étudiante, j'ai vu une exposition, juste la dernière peut-être avant sa mort, où il y avait, alors là, plus figuratif, et il y avait une figure tombée. Et ce mot de figure tombée, je l'ai repris dans un tableau dans les années 95, qui représentait déjà un homme à terre, un homme que j'avais dessiné. J'ai beaucoup dessiné, on les appelait les clochards, les gens qui étaient à la rue. Mais ce face-à-face pouvait plus se faire dans la rue. C'était beaucoup plus difficile de dessiner quelqu'un dans la rue, surtout quelqu'un qui est à terre, qui ne peut pas m'autoriser. Donc d'une certaine façon, je volais quand même quelque chose en faisant une photo, mais en restituant aussi par le dessin cet état de la vie de cette personne, je voulais le montrer et le restaurer. Mais évidemment, je n'ai pas pu demander la permission à ces gens, alors que je la demandais toujours quand j'étais au service social ou à Emmaüs ou bien à la jungle de Calais. C'était toujours un échange avec le temps de pause, ensuite la restitution d'une copie laser dédicacée. Enfin, il y avait toujours quand même un échange et du temps qui était partagé. Pour moi, en fait, c'est ça qui m'importe, c'est le temps partagé. Et le dessin, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé dans les cafés. J'avais l'impression que c'était un petit peu comme dans une sorte de théâtre où je partageais le temps, le lieu, et qu'on travaillait ensemble, même si eux ne le savaient pas.
Anne Gorouben, quelle dessinatrice êtes-vous? Comment ça se passe sur vos tables à dessin? Est-ce que, parce que vous allez vous noircissez progressivement, très progressivement, le papier. Dans quelle énergie êtes-vous à ce moment-là?
Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le repentir. C'est un mot que j'aime bien parce que c'est le mot des peintres quand ils reviennent sur une peinture et que finalement ils mettent une autre couche pour transformer un peu le dessin, ce qui est dessous, on appelle ça le repentir. Et moi, en fait, je reviens, je tâtonne. En fait, je suis une dessinatrice à tâtons. Et des fois, j'épuise complètement le papier. Alors, je suis à la limite de faire de temps en temps des trous dans le papier tellement je cherche. Enfin, je suis quelqu'un qui tâtonne et qui cherche. Il n'y a jamais quelque chose qui s'impose complètement. Ce qui s'impose, c'est la vision intérieure. Par contre, sur le papier, alors restituer, nourrir en fait cette vision intérieure sur le papier, ça demande finalement charbonner beaucoup ou d'essayer avec tous mes différents crayons d'accentuer, d'aller jusqu'au noir, chercher des lumières. En fait, c'est vraiment, j'y vais à tâtonnement.
Et puis il y a Marilyn.
Oui, il y a eu Marilyn, oui.
Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que malgré que ça soit donc une icône mondiale, vos portraits de Marilyn sont très presque dans son secret, presque dans son intimité. Quel était le projet pour vos 36 dessins sur Marilyn?
Il y a eu un jour, c'était juste avant la pandémie, c'était en décembre 2019, un écrivain qui était passionné de Marilyn qui m'a appelé pour faire il organisait une nuit Marilyn dans un lieu branché le mois de juin suivant. Et il m'a demandé un dessin, si je voulais bien faire un dessin de Marilyn. Et moi, en fait, quand je commence quelque chose, en fait, je ne sais pas faire un dessin comme ça m'arrive quand même très peu. Et Marilyn était... en fait, j'ai jamais été fan de Marilyn, en fait, moi. J'ai aimé des films de Marilyn, mais il y a eu quelque chose dans les années 80. Vous savez, les artistes cherchent à exposer, ils cherchent des galeries, et donc on arrivait tous avec nos dossiers pour chercher les galeries, et puis les galeristes, en général, ils n'avaient pas envie de regarder les dossiers, et c'est une anecdote, mais elle est assez drôle, parce qu'on m'a renvoyé à quelqu'un qui regardait les dossiers, qui était une galerie importante, rue Mazarine, petite mais importante en réputation. Et ce monsieur qui avait déjà les cheveux blancs, qui était vraiment très, très imposant pour moi, m'a vu arriver tout en noir, toute petite, les cheveux bruns, en pantalon, veste noire, enfin bon. Et je lui présente mon dossier, et il a cette phrase qui m'a sidérée. Il me dit, mademoiselle, vous savez, on ne devient pas Marilyn, on l'est. Alors moi, je dis, bon, je vous remercie beaucoup de votre conseil, je vais y réfléchir, je vais faire très attention la prochaine fois. Et c'était tellement stupéfiant, j'étais tellement pas Marilyn, Marilyn était tellement pas... Et en plus, il se trompait complètement. Marilyn est devenue Marilyn. Elle a énormément travaillé, elle s'est énormément transformée, elle avait des heures de maquillage pour devenir Marilyn. Mais elle était tout à fait autre. Et quand on voit tous les portraits, moi, j'ai pas du tout utilisé, à part pour le dernier dessin, qui est une photographie, alors là, vraiment volée par un paparazzi à la morgue. Je n'ai pas utilisé de photographie de photographe. Par contre, j'ai fait beaucoup de captures d'écran de quelques films, notamment The Misfits, qui est un film que j'adore. Et de Rush, un autre film, tout d'un coup, il ne vient plus à l'idée, mais surtout des entretiens avec elle. Donc ce sont des images de télévision où elle répond ou pas, des interviews. Et donc c'est là que je faisais des captures d'écran sur ce qui me semblait, en tout cas, les attitudes qui, moi, me touchaient, me parlaient. Donc en fait, ce ne sont pas du tout des portraits vus... ce ne sont pas des portraits, des photographies où elle maîtrise, parce que ce ne sont pas des photos, ce sont des captures d'écran d'images télévisuelles ou cinématographiques, parce que c'était présenté aux informations au cinéma. Mais voilà pourquoi ça ne ressemble pas aux photographies de Marilyn qu'elle maîtrisait. Elle maîtrisait tout. Hein. Quand Marilyn faisait une série de photographies, elle avait des planches contacts et c'était elle qui choisissait ce que le photographe pouvait développer. Elle ne laissait pas passer des photographies non revues, très très peu, sauf celles des paparazzi et les films des fois d'indiscrétion totale, comme ces sorties de clinique, des choses qui étaient... très indiscrète et qui laisse justement passer soit le désarroi, soit la rêverie, soit le... plein d'expressions qui sont les siennes. Et en la connaissant plus, en l'écoutant aussi, hein, en la lisant, parce qu'elle a écrit, parce qu'elle a été publiée il y a 10 ans, je crois, sous le titre de Fragments, on pouvait saisir vraiment une personnalité poignante, en fait, pour moi poignante, oui.
Alors, les auditeurs peuvent découvrir ces portraits de Marilyn sur votre site, Anne Gourouben, donc ils trouveront sans problème sur n'importe quel moteur de recherche. Merci beaucoup, Anne Gourouben, d'avoir répondu à cet entretien. Et je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc « Une jeunesse au secret ». C'est publié par les Cahiers Dessinés et les 320 pages de votre livre sont au prix de 38 euros et il a été soutenu par le Centre National du Livre. Merci Anne Gourouben et très bonne continuation. Au revoir.
Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Merci.
Au revoir.
On va continuer avec le Requiem de Forêt. Ça sera le générique de fin. Très bonne semaine à tous.